allons attaquer le troisième module de ce cours sur la révision pour l'examen 70-133. On est toujours sur le stockage. Donc, base de données Azure SQL. Il faut avoir quelques connaissances pour l'examen, parce qu'il y a quelques questions sur le sujet. Sans être des spécialistes et des DBA, il y a quelques notions de base à savoir. Déjà, qu'est-ce que c'est que Azure SQL Database ?
C'est du RDBMS, service de base de données relationnelle. As a service, il y a trois niveaux de service, le basique, le standard et le premium, chacun venant avec des fonctionnalités additionnelles. C'est ce qu'on va regarder dans quelques instants, puisque essentiellement, on ne se le cache pas, les questions vont poser sur j'ai besoin d'une base de données qui répond à tel niveau de service, de disponibilité, de performance, et j'ai pas beaucoup de sous, est-ce que je dois prendre du basique, du standard ou du premium pour répondre à minima à mon besoin ?
Exactement, les prérequis plus la notion d'argent vont vous permettre de trouver la bonne solution.
Donc il n'y a pas forcément beaucoup de détails sur l'implémentation, mais c'est juste en tant que IT pro, comment est-ce que vous allez choisir la bonne solution qui répond à un besoin. Donc le niveau de performance est déterminé par ce qu'on appelle les DTU, les Database Throughput Units, relativement classique, et chaque SQL database peut avoir un maximum de 1600 DTU.
En fonction, si on va aller du basique jusqu'au premium, le basique sera 2 gigas, le premium sera 500 gigas. On voit que ça peut faire des tailles qui sont un peu petites par rapport aux tailles qu'on peut connaître en prémisse. C'est des tailles qui vont changer, mais pour l'examen, c'est les tailles à retenir. On va voir les tailles intermédiaires après. L'importance des tailles des bases est super importante à avoir pour l'examen, parce qu'effectivement, on vous dira, voilà, j'ai une base de données qui a telle taille, quel est le meilleur choix à prendre en termes d'édition de SQL Database pour répondre au mieux mes budgets. Donc là, forcément, la taille de la base va vous déterminer le niveau de service que vous souhaitez. Donc si d'ailleurs on regarde le portail d'administration d'Azure SQL, on le voit très très bien dans le niveau de tarification. Donc on voit les niveaux standard, basique et premium. Donc on voit effectivement ici que le niveau basique supporte des tailles jusqu'à 2 gigas pour la base, 250 pour le standard et 500 pour le premium, jusqu'à 500. Donc ça veut dire en gros, souvent on va jouer sur on a 200 gigas de base de données, quelle est la meilleure option à prendre ? Si on ne vous impose pas d'avoir des choses particulières en termes de DTU, parce que là on voit que les DTU changent également, 100 sur le premium, 10 et 5, eh bien, si on ne vous parle pas de DTU, mais juste de taille de base, là, probablement que le choix sera plutôt la standard. Et puis, également, vous avez toute la notion et ça, on va en parler juste après, de restauration dans le temps. On remarque ici que la basique n'a pas de système de restauration dans le temps. Donc, ça veut dire que déjà, ça vous permet d'éliminer certains choix en fonction des besoins.
Ah bon, j'aurais dit que si.
Elle en a, mais elle n'a pas de géoréplication.
Pardon, oui, j'ai mal lu, tant pour moi. Elle n'a pas de géoréplication. C'est bien, il y en a au moins deux qui suivent dans la salle.
J'espère que vous aussi, vous avez noté cette petite tentative de dispersion.
Donc, si vous avez une question et qu'on vous parle de géoréplication, ça veut dire que vous aurez un choix entre standard et premium, et c'est la taille de la base ou le prix qui vous permettront de déterminer le meilleur choix. Merci Arnaud pour cette rattrapage.
Pascal aussi avait noté le petit test.
Exactement. Alors au passage, c'est qu'on a subdivisé également, mais ça dans l'examen normalement vous ne devriez pas l'avoir. Regardez-le quand même un petit coup. On a subdivisé les niveaux premium et les niveaux standard en sous-niveaux, les S1, S2, S3, P1, P2, P3.
Différences sont essentiellement sur le nombre de transactions par seconde, worker thread qu'on peut avoir à l'intérieur de ça.
Des niveaux de performance, tout à fait.
Parce qu'on est toujours sinon après sur un max database size de 250 gigs sur le standard et 500 gigs sur le premium. Après, le worker thread, les DTU, c'est ça qui fait la différence.
Voilà. Et le nombre de sessions également, normalement il n'y en a pas, mais s'ils étaient vraiment vicieux, ils pourraient faire une question entre la différence entre une S3 et une P1. Parce que les transactions sont les mêmes, etc. Donc là-dessus, c'est vraiment la taille de la base qui va jouer là encore. En résumé, les tailles des bases ont moins d'importance dans les questions pour l'examen. La continuité d'activité également sert réellement dans les questions sur les SQL Database dans l'examen. Donc sur les temps de tout ce qui est géoréplication. Donc bien voir la différence entre la standard et la premium. C'est là où il y en a quelques-uns. Et puis effectivement, sur les retours arrière possibles, c'est-à-dire que sur une standard, on peut revenir 14 jours en arrière sur des points de restauration. Une premium, c'est 35 jours. Donc si dans une question, on vous dit qu'on veut pouvoir revenir sur n'importe quel point de restauration durant le dernier mois, là forcément, du coup, ça vous oriente sur la premium parce que la standard ne répondrait pas en fait à ces critères.
Et donc la basique a bien un point in time restore, mais qui est de 7 jours.
Exactement. Ce qui est peu.
Ce qui est court.
Alors, le point in time, du coup, parlons-en bien. Ça permet, vous l'aurez compris, de faire la restauration d'une base SQL.
C'est sur une nouvelle base, hein, on ne restaure pas à l'intérieur. Un petit point qu'il faut noter quand même.
Oui.
Donc, on ne vient pas reflasher la base à ce qu'elle était dans le temps. On va écrire ça à un autre endroit, et puis après, c'est à nous de faire la jonction des deux mondes.
Exactement.
Et puis, on se fait ça avec un petit peu de PowerShell, Pascal.
Bah, comme d'habitude, hein, on va utiliser nos commandes qui sont indiquées ici. Donc, le get Azure SQL Recoverable Database pour récupérer une base de données récupérable.
Mm-hmm. Voir ce qui est récupérable, ouais.
Voilà. Et puis, démarrer donc la restauration avec start Azure SQL Database Restore. Donc, une restauration qui va être donc un processus asynchrone. Quand il y a un start, c'est qu'on démarre un process qui va être asynchrone. Ensuite, on va regarder comment ça se passe et jusqu'à ce que ça soit terminé.
Genre avec un get Azure SQL Database Restore, un truc comme ça peut-être.
Quelque chose comme ça. Je n'ai pas la commande en tête, mais on pourrait toujours rechercher. Hein, rechercher. N'hésitez pas à rechercher. Vous faites get commande étoile SQL Database étoile et vous trouverez toutes les commandes qui concernent les database SQL dans Azure.
Point examen, il est possible effectivement qu'on vous pose la question avec dans les réponses en choix multiples, le start Azure, SQL Database, Restore ou le Recovery. Notez bien ici la différence entre les deux, c'est que le Recovery ne fait que la restauration d'une base supprimée et donc le dernier backup. Donc si on vous dit qu'on veut récupérer par exemple un point in time recovery qui a eu lieu il y a 7 jours,
c'est pas ça.
Qu'on vous propose différentes options dont le database recovery, là c'est un piège, ce n'est pas le recovery parce que la base n'est pas supprimée, c'est le restore pour faire une base à côté et ensuite vous allez déplacer. Donc attention là-dessus, c'est des petits trucs classiques d'examen.
Bien sûr. Piège.
Sur la réplication ?
Eh bien, il y a la géoréplication standard, donc on a un seul partenaire de réplication, c'est de la synchrone également et on est en mode actif passif, c'est-à-dire que la base de prod elle est active et puis le back-end il est en mode passif, on n'y a pas accès. Start-Azure SQL Database Copy et stop, si jamais on veut l'arrêter, on veut arrêter les opérations de réplication.
Donc, on a vu le premier type de géoréplication, le standard, qui est du coup actif-passif, c'est ça qui est retenu, standard égale actif-passif.
Ouais.
On a également le actif-actif, mais qui n'est disponible cette fois-ci que pour le tiers premium.
C'est un petit peu plus cher.
Ce qui permet d'ailleurs de faire des belles questions sur je veux faire une réplication, mais pas forcément en actif-passif, enfin en actif-passif, quel est le meilleur choix par exemple. Ou je le fais en actif-actif, quel est le meilleur choix?
Il y en a qu'un seul. En l'occurrence,
c'est le premium, le plus cher en général. Souvent, c'est un petit truc, mais on a tendance dans les réponses à demander le plus cher. C'est pas toujours 100% vrai, mais c'est souvent le cas.
Ouais. Alors, on peut avoir jusqu'à 4 bases secondaires à répliquer. Les bases répliquées sont accessibles en lecture seule. Donc, c'est du mode actif, mais c'est en lecture seule uniquement pour le deuxième, le réplica. De la même manière, start, Azure, SQL, Database Copy et stop pour stopper ces opérations-là.
Donc on se doute bien que derrière ces commandes, il y aura un paramètre qui va vous dire si vous êtes en mode actif-actif ou actif-passif. Donc vérifiez, là encore, avec le help de PowerShell, la différence pour faire un actif-actif ou un actif-passif. On ne sait jamais, une question PowerShell là-dessus peut jouer sur ce paramètre-là. Stratégie pour la montée en charge. Globalement, la première, c'est... ou les quelques stratégies qu'on a. On a le scaling out, hein, qui consiste du coup à avoir plusieurs instances de base de données, le nombre de maximum étant de 4. Et du coup, en fait, on envoie les requêtes sur 4 instances différentes au maximum. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle le sharding, donc le partitionnement. J'en ai regardé les termes anglais parce que l'exemple en anglais, horizontal partitioning. Donc l'idée, c'est d'avoir une application et plusieurs bases. Ce qui est une technique connue des DBA. Donc les bases ici, c'est pour ça qu'ils appellent ça des shards. Le vertical provisioning, l'idée c'est en fait de...
Partitioning.
Partitioning.
Provisioning.
Je dis provisioning ?
Ouais.
Partitioning,
d'habitude.
Merci. De faire les provisions. C'est de répartir certaines portions de données dans différents data stores. Donc l'idée par exemple, c'est des choses qui sont assez connues du monde des bases de données, c'est d'externaliser par exemple les images dans une base de données, pour ne pas gonfler la base de données, mais de mettre les images à l'extérieur et de mettre simplement des pointeurs par exemple. Pour ces images, plutôt que de tout stocker dans le même endroit. Du coup, ça permet d'avoir des bases qui sont plus petites et également d'utiliser différents axes d'entrée. Le dernier, parce que Arnaud ?
Ça va être un mélange entre les deux, en fait. Ça va être un mélange entre un partitionnement horizontal, un partitionnement vertical. Donc ça va être qu'on va pouvoir stocker effectivement des portions de données et des types de données différents, différents endroits. Donc on va utiliser ces différents types de stockage, ces différentes stratégies de stockage d'informations.
Donc personnellement, j'ai une question sur la montée en charge des bases SQL dans Azure. Où, je ne me rappelle plus de l'intitulé exact, mais effectivement, j'avais ces quatre options qui étaient proposées. Et là encore, en fonction de vos contraintes et de comment la question est formulée, eh bien, il faut bien savoir quelles sont les différences entre ces différentes manières, entre guillemets, de monter en charge. Donc, très important de voir ce point. Un peu export de base de données, c'est également, j'ai également une question sur le sujet. Comment on fait pour importer, exporter des données?
Alors, Backpack, c'est la donnée plus son schéma, c'est ça, si je ne me trompe pas?
C'est possible. On aurait dû détailler ce slide.
Ouais.
On aurait dû. Donc, faites une recherche sur la partie import-export Azure SQL Database. Moi, j'ai eu une question sur le sujet, effectivement, qui me demandait l'ordre, en fait. C'était ça, je crois que je m'en souviens. C'était quel était l'ordre des actions à faire pour exporter une base de données qui était la base de données de production et la redémarrer dans une pré-production pour test. Donc effectivement, là encore, c'est assez bien documenté, si vous cherchez un petit peu quand même sur TechNet, sur l'import-export. C'est en gros, vous allez effectivement exporter la base de production dans un format donné et la réimporter dans la base de pré-production dans un format donné, là encore. Donc il doit y avoir 3 ou 4 actions à ordonner. Et ça, typiquement, c'est également des types de questions qu'on a dans l'examen, où on a plusieurs actions et on vous demande de les mettre dans le bon ordre, en fait.
De toute façon, comme nous, on ne connaît pas grand-chose au SQL dans Azure, il faut retenir que Backpack, c'est le format de données d'import-export. Donc voilà. On exporte toute la base de format.
Les data et le schéma.
Et on importe tout.
Voilà ce qu'on regarde en tête. Et puis effectivement, on ira sur TechNet pour voir les opérations en détail dans ces cadres d'import-export. Parce qu'il me semble que j'ai la même question aussi et que je n'ai pas dû la réussir de toute façon.
Ça, on ne sait pas.
On ne saura peut-être jamais.
Eh bien, nous nous retrouvons juste après sur le quatrième module dédié aux services de récupération.